Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bonjour, bon réveil à vous. Nous sommes le samedi 9 octobre. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour notre matinale week-end CNews Europe 1 avec tout pour vous informer. Le journal, bien sûr, avec vous, Elisa Lukavski. Merci d'être avec nous, Elisa. Nos débats, nos rendez-vous culture et santé, la météo aussi. Vous allez être content de vous lever ce matin. C'est un grand soleil qui nous attend. Et puis, ne manquez pas, à 8h40, une interview passionnante. Jean-Pierre Elkabbach reçoit Robert Badinter. C'est aujourd'hui que l'on commémore les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Merci d'écouter Europe 1, il est 7h. On est ensemble pour 2 heures d'infos en direct pour notre débat à 7h10. On accueille Nathan Devers, agrégé de philosophie, et Régis Le Sommier, grand reporter. Bienvenue à tous les deux. Avec vous, on va revenir sur l'actualité très politique de ce week-end. Voici les titres de ce samedi matin. Édouard Philippe lance son parti aujourd'hui. Il est censé permettre à Emmanuel Macron d'élargir sa majorité présidentielle pour 2022. Mais il a aussi en ligne de mire 2027. Nous irons au Havre. Il s'exprimera à 11h30. Emmanuel Macron se positionne sans le nommer par rapport à Éric Zemmour. Lors du sommet Afrique-France, le président a invité la France à assumer sa part d'africanité. Vous entendrez la réponse du presque candidat qui poursuit aujourd'hui sa tournée en Corse à Ajaccio. Et si c'était la fin du Covid, l'idée est réjouissante à mesure que la pandémie recule en France, mais la prudence reste de mise. On en parlera avec notre invité à 7h30, le professeur Bruno Mégarban. Et puis un trio d'enfer, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, 3 Français en lice pour le Ballon d'Or. En attendant, on les retrouvera demain soir contre l'Espagne pour la finale de la Ligue des Nations. On démarre donc avec la politique et Édouard Philippe au Havre.
Journée fondatrice pour l'ancien Premier ministre. 15 mois après avoir quitté Matignon, il lance aujourd'hui son parti politique. Alors dans quel but et avec quels enjeux? Les précisions sur place au Havre de notre journaliste politique, Élodie Huchard, accompagnée de Sarah Varny.
C'est la rentrée pour Édouard Philippe. On en a beaucoup entendu parler. C'est aujourd'hui qu'il lance son nouveau parti. Il dévoilera à partir de 11h30 à la fois le nom du parti, mais aussi le logo, les valeurs qu'il compte porter, notamment en vue de 2022, car il y a plusieurs enjeux pour l'ancien Premier ministre. D'abord, à moyen terme, c'est de participer à la majorité présidentielle. Quand il avait quitté le gouvernement en juillet 2020, on nous avait annoncé qu'il allait structurer la majorité présidentielle en vue de 2022. Il va donc y participer, un conseiller de l'exécutif expliquait que son rôle notamment c'est d'amener à Emmanuel Macron des maires qui sont compatibles avec lui mais qui ne sont pas prêts à s'engager au sein d'En Marche, des maires comme lui majoritairement venus des rangs de la droite. Et puis évidemment à plus long terme, on pense à 2027, Édouard Philippe se structure, il a des soutiens, il aura désormais un parti et des fonds pour développer des idées. En tout cas, on y verra plus clair d'ici quelques heures. Édouard Philippe prendra la parole à 11h30. Il y aura autour de lui à la fois évidemment des militants mais aussi Christophe Castaner par exemple, le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. On annonce environ 3000 personnes pour l'instant. Il prendra la parole donc à 11h30 pour un discours d'une durée d'1h20.
Le PS aura bien 2 candidats lors de sa primaire interne qui aura lieu jeudi prochain. Le Conseil national du Parti socialiste, via son premier secrétaire, Olivier Faure, a hier validé les candidatures d'Anne Hidalgo et de Stéphane Le Foll. La maire de Paris et le maire du Mans communiqueront la semaine prochaine en direction de l'ensemble des militants sous forme d'une profession de foi détaillée et d'un long échange vidéo, a précisé hier Olivier Le Foll. À 8h40, entretien à suivre entre Jean-Pierre Elkabbach et le juriste, avocat et ancien garde des Sceaux Robert Badinter, à l'origine de l'abolition de la peine de mort il y a 40 ans. Sujet qui sera au cœur d'un discours du président Emmanuel Macron et de Robert Badinter ce samedi au Panthéon. L'abolition de la peine de mort, un combat que continue de mener l'ancien garde des Sceaux. On écoute.
Il faut continuer son chemin
jusqu'au
toujours,
bout.
Toujours, toujours.
Vous voulez dire que c'est un combat sans cesse recommencé?
Mais oui, j'évoquais l'abolition universelle qui nous vaut cette commémoration. C'est là où s'inscrit l'avenir pour moi. Le combat contre la peine de mort dans toute l'Europe, il est achevé. J'ai évoqué l'abolition universelle. L'immense majorité des pays, il y a encore des progrès à faire. Il y a d'autres progrès dans le domaine aussi des droits humains.
Et des libertés.
Il y a toujours des progrès à faire et il y aura des conflits. Et ce sera la jeune génération de les prendre à cœur.
Entretien passionnant à retrouver en intégralité à 8h40, donc avec Jean-Pierre Elkabbach. Et à 8h10, ce sera le thème, l'un des thèmes de notre débat. On part à l'étranger maintenant, Elisa.
Oui, et on va parler de la crise entre l'Europe et la Pologne en cause. La non-primauté du droit européen décrétée par la Pologne jeudi. Emmanuel Macron s'est exprimé chez nos confrères de Midi Libre. Il déclare « L'Europe ne doit pas être un projet qui règle ses problèmes ou désaccords en excluant. L'Europe est un projet qui crée de la convergence. » La Commission européenne a averti vendredi qu'elle ferait respecter la primauté du droit européen en utilisant, je cite, « tous ses pouvoirs ».
Du football, on connaît, ça y est, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or.
Une liste où on retrouvera trois Français, Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé. En revanche, pas d'Antoine Griezmann, qui figurait dans la liste pourtant depuis 2016. On retrouvera également Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Robert Lewandowski. L'Italie, championne d'Europe, est la nation la plus représentée avec 5 joueurs nommés. À noter que la France a également 3 nommés chez les femmes. Verdict pour ces ballons d'or le 29 novembre prochain.
Merci beaucoup Elisa Lukeski. On vous retrouve pour un nouveau point à 7h30 dans la matinale le week-end. On retrouve maintenant notre météo avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire. Je vais m'avancer un petit peu, mais il me semble que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer.
Exactement, du soleil pour toute la journée. C'est une excellente nouvelle, même si après la dissipation lente mais sûre, des brumes et brouillards, on pourrait quand même les retrouver dans l'après-midi un petit peu vers le Pays de Caux, vers le Cotentin ou sinon des Pyrénées en direction de l'extrême sud-est à l'exception donc du golfe du Rhône et de la basse et moyenne vallée du Rhône justement, mais sinon avec un petit peu d'instabilité en Corse du Sud en fin de journée. Pour les températures, elles sont tout juste de saison, donc bien automnales, 19 degrés, donc bon, ça sera pour l'après-midi, mais sinon 9 degrés pour la capitale, 4 degrés pour le massif central, et sinon donc pour l'après-midi, ça sera 19 degrés pour la région parisienne, 18 degrés à Strasbourg, et la douceur se maintient encore en direction du sud avec 23 degrés, que ce soit pour Perpignan ou encore en direction d'Ajaccio.
Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure, tout de suite, place au débat.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
L'heure du débat sur CNews et Europe 1 avec nos invités Nathan Devers, agrégé de philosophie et Le Sommier, grand reporter, rebonjour à tous les deux. Vous l'avez vu dans le journal, c'est le grand jour pour Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre va donc lancer son parti aujourd'hui depuis les docks de sa ville du Havre. Un parti dont on dit qu'il est fait pour soutenir, élargir vers la droite la majorité présidentielle en vue de 2022, mais dont beaucoup disent ou pensent en tout cas que c'est surtout un tremplin personnel pour 2027. À quoi va servir, c'est vers vous que je me tourne Nathan Devers, à quoi sert ce parti, selon vous, est-ce qu'il y a un double jeu d'Édouard Philippe derrière ?
On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même démarche que celle d'Emmanuel Macron sous François Hollande, qui avait justement fondé sa propre structure politique pour soutenir la majorité présidentielle de François Hollande et en même temps servir de tremplin personnel, sauf que ce n'est pas la même échéance. Ce parallélisme entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron est intéressant. Moi, Édouard Philippe, il a une personnalité qui est très différente d'Emmanuel Macron. On l'a vu dans le documentaire.
Dans quel sens ?
On l'a vu dans le documentaire Mon copain de droite, là, je crois, et puis dans son livre. C'est quelqu'un qui, me semble-t-il, a une vraie culture littéraire, qui est peut-être plus réservée, plus digne, plus austère, plus pudique, et qui, en même temps, a une forme un grand humour. En revanche, moi, quand même, quand on prend un peu de recul sur le moment où Édouard Philippe a été Premier ministre, il a été associé, je pense, à deux échecs importants du quinquennat d'Emmanuel Macron. Premièrement, la crise des Gilets jaunes. C'est tout de même Édouard Philippe qui a refusé de retirer la taxe carburant au moment où c'était encore possible de dialoguer, d'empêcher la crise. Et deuxièmement, quand même, le premier confinement, le début du coronavirus. C'est Édouard Philippe qui a été associé à cette politique très dure qui a été celle du premier confinement et qui a laissé des traces.
Ça pourrait être un poids, donc, finalement, Édouard Philippe et la création de ce parti politique ?
Il y a eu une correction. Oui, il y a eu, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, il y a eu le premier déconfinement et à l'époque, ça lui avait été attribué comme une réussite. C'était avant l'été, on s'en souvient. Et Édouard Philippe, ensuite, est parti à cause, justement, de sa popularité. En tout cas, c'était devenu qui est un des classiques de la Ve République, c'est-à-dire un Premier ministre, enfin, en tout cas, on a l'image de François Fillon, qui est resté plus populaire que Nicolas Sarkozy. Et donc, d'une certaine façon, on sait qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas tolérer un taux de popularité pareil avec son Premier ministre. Et donc, Édouard Philippe est parti, d'une certaine façon, auréolé d'avoir réussi le déconfinement après tous les échecs du début, les affaires du masque, enfin, toutes les hésitations qui ont marqué le début de cette crise. Et donc, il a cette popularité qu'il a gardée.
Il a une image de présidentiable pour 49%
des Français. Oui, mais
vous savez
ce qu'il a fait. Il a une démarche absolument idéale, finalement, de revenir dans sa ville. Les Français, on sait, s'intéressent à deux élections, l'élection municipale et l'élection présidentielle. Et quand quelqu'un va se réenraciner comme ça, sans ambition nationale au début, évidemment, ça le met directement au contact du peuple. Et je pense qu'il a réussi d'une certaine façon ça, et qu'aujourd'hui, il sort du bois. Alors, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la pertinence de créer un parti en ce moment. Au sein de la République En Marche, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, notamment Olivier Becht, qui est le patron du groupe Agir à l'Assemblée nationale, qui est quand même un groupe qui sont des alliés de la majorité, et qui lui se dit, mais c'est exactement le même positionnement que le nôtre. Donc s'il n'arrive
pas... Ce serait le fameux double jeu que certains craignent.
Voilà, et donc il y a quand même beaucoup d'interrogations. Un certain nombre d'élus La République En Marche vont aller au Havre aujourd'hui. Donc il va y avoir, est-ce que toute la question va être, est-ce que cette démarche d'Édouard Philippe est une agrandie
la majorité présidentielle vers la droite,
ou au contraire, elle est le syndrome de ce qui se passe à gauche, à droite, dans tous les partis, et même dans le camp national, c'est-à-dire une division
Voilà. Nathan Devers, pour conclure sur ce lancement du parti politique d'Édouard Philippe.
Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu. Alors on verra, hein, ce sera dans longtemps, mais à quoi ressemblera la prochaine Assemblée nationale ? Pour ma part, j'espère qu'elle ne sera pas aussi monolithique qu'elle ne l'a été pendant les 5 dernières années, où en effet, on avait une grande majorité de députés qui pensaient exactement la même chose, en tout cas qui votaient la même chose. Et si Édouard Philippe permet à la majorité présidentielle de se scinder un petit peu, de se diviser, et qu'il n'y ait pas l'aspect, je dirais, grégaire, que sur chaque vote, chaque question, tout le monde vote la même chose de manière comme ça monolithique, ce serait peut-être une meilleure chose que ce qui s'est passé depuis 5 ans.
Pendant ce temps, Éric Zemmour continue sa tournée en Corse. Après Sartène, il a été chahuté d'ailleurs pour la première fois hier. Il est attendu aujourd'hui à Ajaccio. Plus le temps passe, plus on sait qu'il se rapproche d'une éventuelle candidature. À tel point que pour la première fois, Emmanuel Macron a lancé en creux, mais de façon très claire hier, des flèches contre Éric Zemmour. On les écoute tous les deux, on en reparle après.
Notre pays s'est construit dans ce rapport à l'Afrique. Et nous avons près de 7 millions de Françaises et de Français dont la vie est intimement, familialement, de manière directe, en première ou deuxième génération, liée à l'Afrique. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité.
Je pense que Emmanuel Macron passe son temps à vouloir dissoudre la France. Il veut dissoudre la France dans l'Europe, et puis après il veut dissoudre la France dans l'Afrique. Moi, je veux que la France reste française. C'est tout l'enjeu, je pense, de la présidentielle. Est-ce qu'on veut que la France soit dissoute dans l'Europe et dans l'Afrique ? Et là, il faut... C'est Emmanuel Macron qui porte ce projet-là. Soit on veut que la France reste française. Moi, je pense que nous devons combattre pour que la France reste française et pour que la France reste ce qu'elle est, telle que nous l'avons connue. Il me trouvera en travers de lui, ça c'est sûr.
Affirmation du président, réponse d'Éric Zemmour. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron est désormais maintenant obligé de se positionner par rapport à Éric Zemmour qui n'est pas candidat ?
Je pense que ce qui était le cataclysme, c'est ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est-à-dire Éric Zemmour potentiellement au deuxième tour. Donc à partir du moment où on a ces chiffres, on a cette augmentation avant, quand c'était 10%, 13%, même 15%. Bon, là, quand il y a
à 17 ou 18% selon ce sondage Harris Interactive.
Voilà. Et puis donc là, le fait qu'il soit potentiellement au deuxième tour, c'est effectivement, ça oblige Emmanuel Macron à se positionner. Ça oblige Éric Zemmour aussi à se positionner. On voit, il me trouvera en travers de sa route. Donc là, on commence à avoir se dessine une sorte de mano à mano entre deux hommes. Éric Zemmour me paraît avoir plus, encore cette fois-ci par ses déclarations, le discours d'un candidat affirmé, déclaré, même si on sait qu'il ne l'est toujours pas, et que pas mal de ses adversaires, en particulier Marine Le Pen, lui dit « Éric, présente-toi ».
Présente-toi. Voilà. Alors justement, est-ce qu'à l'Élysée, finalement, on n'a plus tellement de doutes sur la candidature d'Éric Zemmour ? C'est ce qu'on croit comprendre entre les lignes, là, Nathan Devers.
Oui, et alors la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça change pour Emmanuel Macron, la perspective de se retrouver en face d'Éric Zemmour ou en face de Marine Le Pen ? Ça change une chose, me semble-t-il, c'est que, entre guillemets, le challenge est plus grand. C'est-à-dire qu'à mon avis, Emmanuel Macron devait être assez rassuré de se dire que face à Marine Le Pen, il répéterait ce qui s'est passé au débat de la dernière élection. Ce serait assez facile pour lui au niveau presque intellectuel ou de la compétence. Avec Éric Zemmour, ce sera plus dur.
En revanche, ça veut dire qu'il est plus intelligent et plus compétent que Marine Le Pen ?
C'est-à-dire que le niveau intellectuel risque d'être plus élevé s'il y avait un débat du second tour entre les deux.
Il n'y a pas que la question intellectuelle, c'est que la capacité de rassemblement au niveau des droites d'Éric Zemmour, hein, c'est la fameuse, c'est presque les trois droites de René Raymond, hein, en fait, de ce livre historique sur les droites, et Éric Zemmour a un potentiel partout. Ce qui se passait avant avec le côté clivant de Marine Le Pen et l'héritage de Jean-Marie Le Pen, le fait d'hériter justement de toute l'histoire du FN, eh bien, ça faisait qu'il était difficile. Le FN était dans la même position que le Parti communiste dans les années 50-60, c'est-à-dire premier parti de France, mais avec lequel personne ne voulait s'allier. Éric Zemmour a cassé tout ça. Aujourd'hui, on le voit bien, l'intérêt pour Emmanuel Macron, et ça c'est le côté positif d'Édouard Philippe, c'est qu'Édouard Philippe potentiellement peut récupérer des élus de droite et faire un peu voilà. Mais on sait qu'il y en a aussi qui se sont tentés par l'option Zemmour, et donc là il y a une recomposition des choses, et Éric Zemmour a un peu cassé ce plafond de verre qui isolait jusqu'à présent le FN.
Nathan Devers, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en effet, sociologiquement, ça change. Il ne se retrouve pas face aux mêmes électeurs. Mais politiquement, me semble-t-il, ce duel ne change pas grand-chose pour Emmanuel Macron par rapport à la perspective de Le Pen, dans la mesure où Zemmour permettra à Macron de faire diversion sur, me semble-t-il, ce qui est le vrai sujet, c'est-à-dire son bilan social. Un duel entre Zemmour et Macron, ça fait passer à la trappe tout un certain nombre de sujets qui me semblent majeurs. Le bilan social d'Emmanuel Macron, on a vu que les deux grandes contestations pendant son quinquennat, ça a été premièrement les Gilets jaunes, qui étaient la cristallisation de toute sa politique, qui était très injuste même, envers les personnes les plus précaires, envers les personnes qui sont rendues vulnérables par la politique d'Emmanuel Macron, et la crise sanitaire. Éric Zemmour s'est jamais exprimé, par exemple, contre le pass sanitaire. Donc à mon avis, Éric Zemmour, Macron doit être assez content de se retrouver sur ce terrain-là, où il sera quand même gagnant, parce qu'il y aura une réactivation du Front Républicain. Certes, Éric Zemmour n'est pas le fils de Jean-Marie Le Pen, mais il a écrit Le Premier Sexe, mais il a écrit Le Suicide Français, et ce sera très facile pour Emmanuel Macron, à mon avis, de réactiver le Front Républicain.
Nathan sur le thème. Devers, le dernier mot pour Régis Le Sommier sur ce que disait Nathan.
Le dernier mot, je dirais qu'Éric Zemmour, on l'a vu sur cet échange Macron-Zemmour, immigration, sécurité, identité. Là-dessus, on est sur des thèmes majeurs qui ont beaucoup agité la France. La France est à un moment où elle s'interroge sur elle-même, sur son identité. Éric Zemmour s'est glissé là, à la manière comme un Trump s'était glissé dans l'univers américain, en tapant une corde très sensible dans la société française.
Merci beaucoup à tous les deux, Régis Le Sommier, grand reporter, et Nathan Devers, agrégé de philosophie, à suivre Retour vers le futur. On vous parle de la 4L avec Michel Chevalet.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
7h23 dans la matinale week-end, CNews Europe 1, Michel Chevalet, toujours bon pied, bon œil, avec un petit jouet dans les mains, Michel. Mais oui, c'est la 4L, elle a 60 ans, pas une ride, et puis elle revient en France.
60 ans, oui.
60 ans, c'est ça?
Oui, j'avais dit 50 ans, 60.
Non, 60.
Grand-mère, mais toujours aussi jeune. Ça, c'est étonnant, c'est un succès. Vous allez voir, non pas, j'oserais dire, au national, mais vous allez voir, c'est un succès mondial. Il y en a eu 8 millions d'exemplaires dans 110 pays. Enfin, ça, voilà. Alors, on va revenir en arrière, parce que vous allez voir, c'est une très, très, très belle histoire. Allez, 1956, le patron de la régie Renault à l'époque, Pierre Dreyfus, veut remplacer l'antique 4 chevaux qui a eu le mérite d'exister et relancer l'industrie automobile française. Alors, il voulait une voiture simple, populaire, facile à réparer, pas cher, économique, avec un petit moteur de 4 chevaux. Puis alors, une caisse, si vous voulez, quand on la voit, coupée à la serpe, hein, une caisse de camionnette avec 4 places. Et puis, innovation de l'époque. Elle était traction avant. Une révolution pour Renault, où c'était tout à l'arrière. Vous emmenez la 4 chevaux, la Dauphine et la R8. Et ben voilà. Et avec un levier de vitesse au volant, hein, au tableau de bord. Et des sièges hamac inspirés de ceux de la 2 chevaux, qui était l'ennemi à abattre, hein, la 2 chevaux Citroën. Et voilà.
C'était l'avant-garde, finalement.
Et ça a été, le nom du projet, c'était 350. Alors, vous dites, pourquoi 350? Eh bien, parce que Pierre Dreyfus a dit, pas plus de 350 000 francs de l'époque, c'est-à-dire à peu près 5 000 euros aujourd'hui. Donc, vous voyez, une voiture économique. Et elle a été lancée en 1961, donc ça ne marchera jamais. Eh bien, si. aussitôt, eh bien, les commandes ont afflué, ça a été un succès, et un succès qui s'est transformé en succès mondial, puisque je vous dis, elle a été construite dans 7 pays autres que la France. On l'a construite au Maroc, on l'a construite en Italie, on l'a construite en Afrique du Sud, au Brésil. Et puis, elle a été vendue dans 110 pays. Et alors, c'est pas tout. Elle a su, je veux dire, évoluer au fil des années, cette voiture. Cette voiture qui était aussi à l'aise à la ville qu'à la campagne. C'est ça qui est vraiment... Que la jeunesse, que les grands-parents. On a tous appris à conduire sur une 4L. Alors, on l'a eu dans des rallyes. Ben oui, elle a fait des rallyes. Elle a fait 2 fois le Paris-Dakar. Elle a fait la Transamazonienne. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Et c'était avec une camionnette. Ça a été la voiture de toutes les administrations. Ben, c'était la camionnette jaune des PTT.
C'est la voiture doudou pour beaucoup de Français. Mais quand on y pense, on pense à notre enfance.
C'est la camionnette. Oui, vous l'avez vu, c'est le facteur. C'est les gendarmes. Et vous savez pourquoi les gendarmes, ils aimaient la 4L ? Mais non, c'est parce qu'ils disaient on pouvait la conduire avec le képi sur la tête. Et puis ça a été cette voiture, elle a su à la mode parisienne.
Et on en reparle maintenant.
Et on en reparle maintenant parce qu'on en fait aux Champs-Élysées, très belle exposition, les 60 ans de la Renault 4, parce qu'elle est devenue 4L. Pourquoi L ? Ben comme luxe. Bon, elle avait rien de très luxueux. Mais enfin, moi, juste pour terminer, moi je dis, il faut méditer le succès de la 4L. Pourquoi ? Parce qu'on était revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire de faire une voiture simple, économique, facile à réparer, ce qui on l'a un peu oublié aujourd'hui.
Michel, ça vaut le coup cette exposition ?
Hein ? Ah oui, ça vaut le coup.
La 4L, c'est aux Champs-Élysées.
C'est le voyage à travers les années.
Champs-Élysées, hein, c'est ça.
Oui, c'est ouvert sur les Champs-Élysées, ce qui était le drugstore Renault, qui est Renault Atelier.
Et donc, on peut redécouvrir avec plaisir la 4L sous toutes ses formes.
Ah, bah
et
oui,
toute son histoire.
S'asseoir, se remettre. Enfin, c'est tout un autre univers. C'est l'automobile de grand-papa. Mais moi, je dis qu'il y a encore des 4L qui roulent. Moi, j'en ai vu à Madagascar dans des taxis.
La 4L roule toujours. Merci beaucoup, Michel Chevalet, pour ce point avec le festival de la 4L donc en ce moment à Paris. Une expo à voir sur les Champs-Élysées.
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews. La matinale week-end.
Les principaux titres de l'actualité. À bientôt 7h30 avec vous, Elisa Lukavski.
15 mois après avoir quitté Matignon, Édouard Philippe lance aujourd'hui son parti politique au Havre. Alors de quel œil le gouvernement voit-il l'initiative de celui qui est la personnalité préférée des Français ? Plutôt de façon positive, à en croire Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui était hier du côté de Nanterre. On l'écoute.
Pour moi, les choses sont très claires. Vous savez, Édouard Philippe, il a été Premier ministre de la France avec le président Macron. Il s'est encore exprimé très clairement récemment pour évidemment dire son souhait que je partage et qu'on ait un grand nombre à partager, que le président soit à nouveau candidat en 2022 et évidemment qu'il soit réélu. Donc je crois qu'il ne faut pas chercher de problème là où il n'y en a pas. Édouard Philippe, il veut aider le président de la République, il veut aider la majorité, élargir la majorité, contribuer lui aussi au rassemblement et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle.
Éric Zemmour continue, lui, son tour de France. L'écrivain qui assure la promotion de son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, est arrivé en Corse. Première étape à Sartène, hier, où il a été pris à partie par un indépendantiste. Notre envoyé spécial Gauthier Lebret revient sur cette altercation.
Première séance de dédicace corse pour Éric Zemmour et premier accrochage depuis le début de son Tour de France. Un élu indépendantiste s'est avancé vers lui pour lui dire qu'il n'était pas le bienvenu en Corse. S'en est suivi un échange tendu entre les deux hommes. Je vous propose d'écouter la réaction d'Éric Zemmour à notre micro.
C'est pas un moment chaud, on s'échauffe, c'est rien du tout. J'ai depuis des années, vous ne me suivez pas, mais depuis des années, partout où je passe, j'ai les antifas qui essayent de faire le coup de poing partout pour m'empêcher de parler. C'est leur conception de la démocratie. On sait que l'extrême gauche ne respecte pas la démocratie et la liberté de parole. Ça fait un siècle que ça dure. Donc j'ai l'habitude, vous savez. Mais c'est pas ces gens-là qui vont me faire taire, vous inquiétez pas.
À noter que le maire de la ville, le maire de Sartène, était présent lors de cette séance de dédicace. Il pourrait apporter son parrainage à Éric Zemmour s'il décide de se présenter. Aujourd'hui, Éric Zemmour va quitter Sartène, direction Ajaccio, pour un discours prévu à 15h30. Un discours dans cette ville impériale, la ville qui a vu naître Napoléon Bonaparte. Évidemment, tout un symbole pour Éric Zemmour qui répète à l'envi que c'est le plus grand personnage de l'histoire de France. Éric Zemmour ira ensuite à la rencontre d'étudiants et puis il y aura une nouvelle séance de dédicace en fin d'après-midi.
Présent à Montpellier hier pour le sommet Afrique-France, Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'importance de la démocratie à 6 mois de l'élection présidentielle. Pour lui, c'est une situation qui n'est pas acquise et qu'il faut sans cesse entretenir. On l'écoute.
La démocratie, c'est un combat. Non, on peut pas. Je pense que ce qu'on est tous en train de faire. D'abord, notre projet, il est sans cesse inachevé et il est fragile. Et je pense que ce qu'on redécouvre, c'est que la démocratie, y compris en France, y compris dans le pays des Lumières, le pays de la Révolution, c'est fragile. Quand on pense qu'on peut expliquer que ce qu'on avait bâti comme des universaux et des valeurs universelles, les droits de l'homme, la dignité, l'égalité femmes-hommes, on peut se mettre à la relativiser, y compris chez nous dans le débat français, on voit que la démocratie redevient un combat.
136 pays se sont mis d'accord pour une taxation minimale de 15% des multinationales. Un accord qui vise à réduire le dumping fiscal exercé par certains pays, des pays à fiscalité avantageuse, comme l'Irlande par exemple, qui applique des taux d'impôt sur les sociétés plus bas que dans des États concurrents. Le dernier cadre fiscal mondial qui avait été ratifié datait de 1928. Un pistolet, Colt 45 ou encore une lettre manuscrite, voilà le type d'objet en vente hier et ayant appartenu à Al Capone. 174 objets, propriété du gangster et chef de la mafia de Chicago pendant la Prohibition, ont été vendus hier à Sacramento aux enchères. Des vestiges de la vie personnelle d'Al Capone, comme le précise l'une de ses petites filles à l'origine de ces enchères.
As far as I know,
Autant que je sache, il n'y a rien dans la collection qui soit spécifiquement lié à tout ce qui s'est passé au cours de sa vie publique. La plupart des biens ici, ce sont des choses de sa maison en Floride, que ma grand-mère a sélectionnées pour la plupart. Et il y a des choses qui lui étaient particulièrement chères, comme sa cave à cigares, son bureau et beaucoup de ses bijoux, des choses comme cela qui lui appartiennent spécifiquement.
Et puis de la boxe pour terminer avec un combat qui promet la nuit prochaine à suivre sur Canal+, Tyson Fury, le Britannique, face à Deontay Wilder, l'Américain. Une affiche qui sent la poudre. C'est la troisième fois que les deux géants s'affrontent. L'an passé, c'est Tyson Fury, le champion WBC des poids lourds, qui s'était imposé et avait infligé à l'Américain sa première défaite en carrière. Ça sera à suivre dès 5h30 du matin. Sur Canal+.
Merci beaucoup Elisa. Prochain journal à 8h, il est 7h32. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end de CNews Europe 1. L'actualité, c'est aussi cette question qu'on a envie de se poser forcément et avec beaucoup d'espoir. La crise du Covid est-elle derrière nous pour de bon? On en parle avec le professeur Bruno Bégarban. Merci d'être avec nous. Bonjour, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Le taux d'incidence n'a jamais été aussi bas, 6 fois moins de cas que mi-août. On a tous envie de s'alléger de ces contraintes qui nous pèsent. On va voir le reportage de Vincent Burga et Jeanne Cancard et on entre dans le détail avec vous juste après.
Dans les rues de la capitale, les Français abordent sereinement l'évolution de la situation épidémique.
A priori, la politique de vaccination a porté ses fruits puisqu'il y a très peu de nouveaux cas. Il y a de moins en moins de gens en cas critique.
On est plutôt rassurés. On a l'impression qu'on va revenir à une vie normale.
On est sur une décroissance sur à peu près tous les signaux. Moi, j'ai l'impression que dans la vie tous les jours, les gens revivent de plus en plus normalement.
Les chiffres de Santé publique France confirment le sentiment des Français. Le nombre de cas journaliers diagnostiqués a été divisé par 6 depuis le 15 août, passant de près de 24 000 nouvelles contaminations à 4 470 hier. Des résultats encourageants, mais il est trop tôt pour entrevoir une fin définitive de l'épidémie, selon le docteur Jérôme Marty.
Il est probable que le temps humide et le froid arrivant, novembre, décembre, on va voir une nouvelle poussée de la circulation virale, mais ça ne devrait pas avoir des conséquences très importantes sur les hôpitaux, puisque, fort heureusement, on a quasi 50 millions de Français de vaccinés, ce qui va considérablement changer les choses.
Les autorités restent donc prudentes. Aucun allègement du pass sanitaire n'est pour l'instant prévu, avant le 15 novembre.
Professeur Bruno Bégarban, prudence donc, mais est-ce qu'on commence quand même à voir se dessiner la fin du Covid ou est-ce qu'on est un peu trop enthousiaste?
Non, malheureusement, le virus ne va pas disparaître. Alors c'est vrai que la situation épidémiologique en France est très bonne. Néanmoins, on observe un certain nombre de signaux qui laissent penser qu'il y a un risque de redémarrage de l'épidémie. Quels sont ces signaux? D'abord, effectivement, la vitesse de régression de l'épidémie s'est ralentie. Elle a été divisée par deux. Deuxièmement, dans certains départements, l'épidémie ne régresse plus. Elle stagne, voire même elle augmente.
Vous pensez par exemple à la Mayenne?
Par exemple, même si les chiffres sont bons, même si on peut penser que dans quelques jours, on va descendre aux environs de 4000 nouvelles contaminations par jour, on pourrait se retrouver sur un plateau, voire un redémarrage avec le refroidissement des températures. Alors toute la question est de savoir, est-ce que ce plateau va se situer à un niveau bas, comme par exemple aux Pays-Bas ou en Hollande ou au Danemark, ou plutôt haut, comme au Royaume-Uni. Car évidemment, le danger, c'est qu'il puisse y avoir malgré tout un afflux plus important de patients à l'hôpital, un plus grand nombre de décès. Alors, ce qui peut être rassurant, c'est que même si l'épidémie repartait, il y aura toujours un découplage entre les contaminations et les hospitalisations. On l'observe même au Royaume-Uni.
C'est-à-dire, je rappelle que vous êtes chef du service réanimation
de la Rivoisière. L'épidémie, les contaminations pourraient réaugmenter. Par contre, les hospitalisations ne suivaient pas le même rythme.
Et, c'est grâce au vaccin.
Grâce au vaccin. Pour preuve, on voit en Roumanie aujourd'hui un redémarrage massif de l'épidémie avec le variant Delta, mais sans découplage, avec un afflux massif de patients vers l'hôpital, avec une augmentation effrayante du nombre de décès, car la vaccination n'est qu'à 30% de la population. Ce n'est pas le cas en France, nous sommes à 85%. On peut penser qu'il y aura un vrai découplage.
Est-ce que 85%, ça suffit? On est quand même en train de dire qu'il y a une bonne partie de non-vaccinés chez les plus de 75 ans, qui sont souvent les premiers arrivés dans les services de réanimation. Est-ce qu'on est suffisamment vaccinés aujourd'hui?
C'est la question. Alors, on va dire oui, c'est suffisant pour éviter de reproduire ce que l'on a connu dans les vagues précédentes, mais peut-être pas suffisant parce qu'effectivement, le pourcentage de vaccination est légèrement plus faible chez les personnes les plus âgées qui sont à très haut risque de faire une forme grave de la maladie. On estime à peu près 1 million de personnes, soit âgées, soit comorbidées, n'est toujours pas vaccinées. Évidemment, si ces personnes étaient contaminées parce que le virus recirculait massivement, on saturait immédiatement les services hospitaliers.
Et c'est la raison principale pour laquelle on recule la date éventuellement de la fin du pass sanitaire ?
Oui, tout à fait. Le pass sanitaire à nouveau, comme d'ailleurs le déremboursement des tests, n'ont pour seul objectif que de pousser les derniers récalcitrants à se faire vacciner. Alors évidemment, pour des personnes très âgées, isolées, ça n'est pas le pass sanitaire qui va être efficace, puisque ce sont des personnes qui ne fréquentent pas les lieux de socialisation. Il faut aller les chercher avec les médecins traitants, avec la caisse d'assurance maladie, les chercher individuellement et les vacciner dans leur domicile.
Alors, je voudrais qu'on parle de cette bonne arrivée, peut-être une bonne nouvelle, toujours dans le cadre de la vaccination, à savoir que le vaccin Pfizer va débarquer désormais dans les pharmacies et les généralistes. Je vous propose d'écouter ce sujet préparé par Charles Iserman et Bora Agirbas. On en reparle juste après.
Jusqu'à maintenant, on ne les trouvait qu'en centre de vaccination. Désormais, les flacons de vaccin Pfizer sont également livrés dans les pharmacies. Une bonne nouvelle pour Grégory Temprement, président de l'URPS Pharmacien Hauts-de-France.
Depuis longtemps, on réclamait en fait d'avoir le vaccin Pfizer en ville également. Finalement, les centres de vaccination étaient là pour le grand rush de vaccination. Il fallait vacciner massivement la population. Progressivement, ça va revenir vers les professionnels de santé, libéraux de ville, médecins, pharmaciens et infirmiers.
Les patients de la pharmacie Temprement à Comines sont ravis de pouvoir faire leur troisième dose avec des professionnels de santé qui leur sont familiers.
Bonne initiative de pouvoir le faire sur Comines et surtout chez notre pharmacien, qu'on a entièrement confiance en eux. On est des bons clients, on a des bons rapports. Et puis en plus, c'est sur place.
En général, on connaît son pharmacien, donc je pense que voilà, c'est quand même plus personnalisé.
En plus du vaccin anti-Covid, celui contre la grippe arrivera le 26 octobre. Arthur Delemar, pharmacien à Lille, va devoir être consciencieux pour établir son planning.
On va essayer peut-être d'allier la troisième dose pour les personnes qui ont besoin avec la vaccination anti-grippale. On essaie d'avoir un calendrier assez rigoureux. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein.
L'année dernière, plus d'un Français sur deux s'est fait vacciner contre la grippe.
Professeur Bruno Mégarban, c'est une bonne nouvelle l'arrivée de ce vaccin à disposition de tous?
Oui, comme vous l'avez expliqué aujourd'hui, en parallèle à la campagne de primo-vaccination de ceux qui ne sont toujours pas vaccinés, il y a la campagne de rappel vaccinal avec la troisième dose des personnes âgées et des personnels de soignants. Et donc, de fait, effectivement, pouvoir combiner la vaccination antigrippale et la vaccination la troisième dose contre la Covid est très utile.
Donc on irait en pharmacie, on aurait une dose contre le Covid, une dose contre la grippe.
Exactement.
Vous comprenez que ça puisse faire un petit peu peur ?
Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune interaction entre les deux vaccins.
C'est important peut-être de le repréciser.
Tout à fait. Au contraire, on peut avoir les deux doses dans le même bras ou dans deux bras différents. Et comme ça, régler les choses une fois pour toutes et passer un bon hiver. Car à nouveau, il faut le rappeler, seul le vaccin permet aujourd'hui de protéger formellement contre les formes graves de la maladie et contre le risque de mourir. Et prendre le risque d'avoir et la grippe et ou la Covid lorsqu'on est âgé ou avec des comorbidités, eh bien c'est prendre un risque malheureusement vital pour soi-même.
Pour les plus jeunes, ceux qui ont été vaccinés en juin, juillet, août, la troisième dose de rappel, c'est pour quand ?
On ne sait pas encore. Pour le moment, il n'y a pas suffisamment d'évidence scientifique pour penser que chez les personnes sans comorbidité, il faille faire une troisième dose. Ça n'est pas exclu, mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison de le faire encore. Par contre, il faut primo-vacciner toutes les personnes adultes non vaccinées encore.
Merci infiniment, professeur Bruno Mégarban. Je rappelle que vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. On a des raisons d'être optimiste, mais il faut rester prudent. C'est votre message ce matin. Dans un instant, dans la matinale week-end, des musiques qui vont tout de suite vous parler, sûrement vous faire du bien. Retour sur les plus grands tubes de James Bond qui cartonnent au cinéma en ce moment. Musique de Shirley Bassey à Billie Eilish en passant par l'inoubliable Adele. À tout de suite.
Matinale week-end, CNews Europe 1. Isabelle Moreau.
Place au cinéma dans votre week-end avec Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Isabelle.
Alors évidemment, on a beaucoup parlé de James Bond. C'est sorti vrai. Il y a 2-3 jours maintenant. Les avis
sont partagés. Ça marche très bien.
Ça marche fort. Eh bien oui, évidemment. Mais James Bond, c'est aussi autre chose que le simple film ou les cascades.
Bien sûr, bah c'est vrai, James Bond, c'est le personnage, les cascades, les gadgets, les James Bond girls, les méchants, super méchants, voilà, tout ça. Mais c'est aussi des génériques toujours très, très attendus, le générique de début de James Bond, la chanson du film. Donc j'avais envie qu'on se replonge dans les meilleures bandes originales de James Bond. Bon, voilà le célèbre thème de James Bond. Alors par exemple, l'un des génériques phares qui date de 1964, c'était celui de Goldfinger. Goldfinger, c'était la première fois qu'il demandait en fait à un chanteur de chanter sur un générique de James Bond, et là c'était Shirley Bassey qui a d'ailleurs
sublime
voix. On va écouter d'ailleurs quelques secondes quand même. Chanson culte, John Barry, le compositeur, lui avait demandé d'ailleurs à la fin de tenir la note finale au maximum. Et elle déclarait dans la presse qu'elle a failli crever en fait. Elle était tellement apnée à la fin que c'était très compliqué de tenir la note. Et elle a fait 3 génériques de James Bond au total. Alors, ah bah voilà.
On a mal pour elle, mais qu'est-ce que c'est agréable.
On a l'impression qu'elle va jamais redescendre, la pauvre. Alors, il y a une autre chanson en 1995, Tina Turner, évidemment, le générique de GoldenEye, chanson écrite par Bono et The Edge du groupe U2. Et c'est Eric Serra, le compositeur, donc le célèbre compositeur de Luc Besson, qui faisait toute la bande originale de ce film, et Tina Turner qui faisait la chanson du générique. Le 17e film de la série James Bond, GoldenEye, réalisé par Martin Campbell, qui avait très très bien marché avec Pierce Brosnan. Alors, moi j'avoue, c'est ma préférée, évidemment, la chanson qui a quand même tout raflé, Oscar.
Je vois où vous allez.
Oui, voilà, c'est Adele. Le méga tube, Adele, Skyfall. C'est le méga succès. C'est l'Oscar de la meilleure musique originale, Grammy Award, Golden Globe de la meilleure chanson aussi. Daniel Craig, qui a avoué qu'il a pleuré quand il a entendu la chanson.
Elle donne la chair de poule, elle
a des frissons. Elle a hésité en fait avant d'accepter. Elle voulait pas faire le générique d'un James Bond. Elle avait l'impression que c'était pas assez personnel pour elle. Et finalement, elle a lu le scénario et elle a tellement aimé qu'elle a été très inspirée, qu'elle a fait la chanson, et elle a bien fait de faire cette chanson. Et puis quand même, la dernière en date, hein, puisqu'on vient de dire que Mourir peut attendre est en ce moment au cinéma, c'est Billie Eilish, seulement 19 ans. C'est la plus jeune interprète d'une chanson de James Bond. Et c'est elle qui chante le générique de Mourir peut attendre.
Quel carrière pour Billie Eilish, toute jeune interprète et déjà...
Même pas 20 ans, c'est dingue. Et franchement, le générique est très très beau, il est très différent. Faut rappeler quand même que cet épisode, c'est la conclusion de l'ère Daniel Craig.
15 ans.
Ouais, il va nous manquer quand même, il est bien. Hein.
Et en attendant, il faut le profiter, c'est au cinéma.
Profiter, voilà. Et vous allez voir l'ouverture, et c'est vraiment une jolie ouverture, mais qui change de d'habitude.
Merci beaucoup, Laurie Chaleva, c'était la chronique cinéma.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
C'est la journée des 10 aujourd'hui, 10 entre autres pour dyslexique, des troubles qui perturbent l'apprentissage de beaucoup d'enfants. On en parle avec vous, Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Bonjour Céline.
Bonjour Isabelle.
Ça touche beaucoup de monde, la dyslexie et tout ce qui va avec. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Mais d'abord, dites-nous de quoi s'agit-il exactement ?
Alors, il s'agit tout simplement de toutes ces pathologies qui commencent par 10, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, on ne va pas toutes les citer, mais ça touche 7 millions de personnes en France. On dénombre au moins un élève par classe de l'école maternelle au lycée et plus de 8% des enfants de CE1 ont un retard de lecture. Le point commun de tous ces troubles, Isabelle, une altération de la capacité à retenir, à comprendre, à reconnaître les mots et qui sont écrits. Et la plus répandue de ces pathologies, c'est la dyslexie. Elle touche de nombreuses personnalités. Hein. Je veux parler notamment de Steven Spielberg, de Richard Branson, de Jennifer Aniston ou même de Sylvester Stallone.
Quelle réussite quand même, malgré tout.
Et plus près de chez nous, il y a Nathalie Baye, Mika ou encore Franck Gastambide qui sont tous touchés, qui ont révélé être touchés par la dyslexie. Agnès Jaoui, la réalisatrice, elle est maman de 2 enfants dyslexiques et elle nous explique pourquoi le combat contre la stigmatisation doit continuer. On l'écoute.
Il y a beaucoup de boulot, oui, parce qu'on confond par ignorance, hein, et ça a été mon cas, la difficulté de l'enfant avec un manque de volonté de sa part, quoi. Le nombre de fois, on a dit, non, mais il faut qu'elle fasse l'effort de lire. Oui, mais sauf que si B.A.B.A. ne fait pas B.A., pour elle, elle peut faire tous les efforts. On ne demande pas à un unijambiste de courir le 100 mètres. Donc, quand vous demandez à un élève, par exemple, dyslexique, qui a un problème avec la lecture, si vous lui demandez de lire tout haut devant toute la classe, vous allez l'humilier pour rien.
Et oui, c'est toute la complexité, c'est un handicap invisible, ça implique ces difficultés d'apprentissage pour la lecture surtout, et c'est ça qui crée, Céline, ce déséquilibre.
Carrément, des études le confirment, le cerveau des personnes dyslexiques a du mal à percevoir, à analyser la façon précise des sons dans les mots. En utilisant, un enfant par exemple va dire « talbe » au lieu de « table », il va dire « ami » au lieu de « m ». Du coup, sa lecture est très lente. Cet effort permanent pour décoder, pour reconnaître les mots dans une phrase demande beaucoup d'énergie. Et les enfants dyslexiques se sentent souvent exclus. Le décrochage scolaire n'est jamais très loin.
D'où l'importance de cette journée des 10, qui est l'occasion de mettre en avant les nouvelles technologies parce qu'on peut aider au quotidien les dyslexiques.
Il y en a pour tous les âges, Isabelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour les tout-petits, regardez, il y a cette application Mila. Écoutez aussi, c'est une recherche de l'INSERM qui démontre montre que la musique et le langage sont traités dans des zones similaires du cerveau en utilisant le rythme de la musique. Eh bien, Mila permet d'apprendre en s'amusant. Ça fait travailler la mémoire et l'apprentissage des enfants grâce au rythme et les résultats sont probants. Alors pour les élèves de collège-lycée maintenant, il y a cette planche d'étiquette autocollante à coller sur le clavier d'un ordinateur. C'est très utile, surtout quand on commence à faire des études. Nom de code K10, des couleurs pour chaque touche, pour chaque lettre, ce qui permet finalement à l'œil de focaliser plus vite chaque touche. Il fallait y penser. C'est un ado de 16 ans, de Saint-Brieuc. Pour la petite histoire, il s'appelle Johan Dubois. Il a créé ça tout seul. Il était lui-même dyslexique et il a imaginé cet outil lancé il y a bientôt un an. Il y a 1000 kits qui ont déjà été vendu, notamment l'Académie de Metz-Nancy. Il sera bientôt distribué dans une grande enseigne et ça, c'est une chouette success story. Enfin, pour les plus grands, il y a des logiciels comme Adelteam ou Dysvocal qui proposent une assistance à la lecture, à l'écriture avec un correcteur d'orthographe. C'est très précieux. Et puis, il existe aussi des lampes à lumière pulsée qui émettent des flashs lumineux invisibles à l'œil nu et ça efface finalement l'effet miroir ou superposé des lettres dont souffrent les dyslexiques.
Donc, des innovations, des solutions, mais le combat continue.
continue quand même, Céline.
Oui, alors la Fédération française des dyslexiques se bat depuis 20 ans aux côtés des pouvoirs publics et des politiques pour faciliter le quotidien de ces enfants. Alors il y a des progrès, bien sûr, des dispositifs, des aides qui ont été mis en place, mais encore trop d'ignorance, c'est vraiment le mot-clé, du côté des enseignants et des professionnels de santé. Le vrai problème reste le dépistage et le diagnostic. La FF10 milite d'ailleurs pour la création d'une spécialité médicale. Ça va impliquer forcément un changement de numerus clausus pour les orthophonistes, les ergothérapeutes, les neuropsychologues ou les psychomotriciens. De manière générale, il faut favoriser vraiment l'inclusion de ces enfants dyslexiques pour que le 10 soit enfin reçu 10 sur 10.
Évidemment, merci beaucoup Céline Giraud, chef du service Société Europe 1. Merci, 10 sur 10, donc ce sera le slogan du jour. La matinale week-end continue sur CNews et Europe 1. A tout de suite pour un nouveau journal. On ira au Havre où Édouard Philippe s'apprête à lancer son nouveau parti politique. Et puis à 8h10, dans notre débat avec Guillaume Bigot et Pierre-Henri de Menton, nous évoquerons cette journée si particulière. Emmanuel Macron et Robert Badinter vont commémorer au Panthéon les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter sera d'ailleurs l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h40, à tout de suite.
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end CNews Europe 1. Au menu, la santé avec le docteur Brigitte Millot et les effets stupéfiants, vous le verrez, du placebo, la culture et le retour en force du « c'était mieux avant ». Ce sera avec Mathieu Alterman. À 8h40, un entretien inspirant. Jean-Pierre Elkabbach reçoit Robert Badinter à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort pour l'ancien garde des Sceaux. Le combat n'est pas terminé. Merci d'écouter Europe 1, il est 8h. Et j'accueille nos débatteurs du matin, Guillaume Bigot et Pierre-Henri de Menton. Merci à vous d'être sur le plateau de la matinale week-end. On reviendra avec vous sur cette journée de commémoration. C'était il y a 40 ans, mais le sujet reste très sensible autour de la peine de mort. Le journal, évidemment, avec vous, Elisa Lukaski. On commence par les titres de l'actualité. Édouard Philippe qui lance son parti ce matin. Il est censé permettre à Emmanuel Macron d'élargir sa majorité présidentielle pour 2022. Il a aussi quand même en ligne de mire 2027. Nous irons au Havre où il s'exprimera à 11h30. C'était il y a donc 40 ans, jour pour jour, le 9 octobre 1981, l'entrée en vigueur de l'abolition de la peine de mort. Une cérémonie de commémoration est prévue au Panthéon avec Emmanuel Macron et Robert Badinter. Robert Badinter, invité de Jean-Pierre Elkabbach, retenez le rendez-vous à 8h40. Et puis une énième conséquence du Covid, chaussures et vêtements pourraient venir à manquer en Europe d'ici à la fin de l'année. Les prix en tout cas risquent de gonfler sérieusement. Nous vous dirons pourquoi dans ce journal. La politique donc et ce rendez-vous attendu au Havre pour Édouard Philippe, Elisa.
Oui, journée fondatrice pour l'ancien Premier ministre. 15 mois après avoir quitté Matignon, celui qui est la personnalité politique préférée des Français lance aujourd'hui son parti politique. Alors pourquoi et dans quel objectif? Élément de réponse avec Emma Guessel.
Pour Édouard Philippe, il s'agit avant tout de faire gagner Emmanuel Macron en 2022. En créant son parti, l'ancien Premier ministre veut s'assurer d'avoir un socle politique solide autour de lui. Gilles Boyer est député européen et rejoindra ce nouveau parti politique.
Aujourd'hui, tous les camps politiques sont divisés. La gauche est divisée, la droite est divisée et maintenant l'extrême droite est divisée. Et donc face à cela, nous devons offrir une majorité unie et je crois qu'on aura besoin de tout le monde pour gagner.
Car c'est bien la spécificité de ce parti. Ceux qui le rejoignent viennent de camps politiques différents. Laurent Bonnater est maire de Caudebec, en Seine-Maritime.
Moi, je ne suis pas de droite, vous le savez. Hein. Je suis un homme de gauche. Les gens se classent de moins en moins sur l'échelle droite-gauche. Ils se classent sur des valeurs.
Mais certains politiques doutent. Édouard Philippe aurait-il lui-même des ambitions présidentielles? Pas d'inquiétude pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Pour moi, les choses sont très claires. Vous savez, Édouard Philippe, il a été Premier ministre de la France. Il s'est encore exprimé très clairement récemment pour évidemment dire son souhait que je partage et qu'on ait un grand nombre à partager, que le président soit à nouveau candidat en 2022. Je crois qu'il ne faut pas chercher de problème là où il n'y en a pas.
Si certains soupçonnent tout de même Édouard Philippe de mener un double jeu, pour la majorité, le président de la République ne peut pas se passer du soutien du politique le plus populaire de France.
La santé, des signaux très encourageants. On est peut-être en train d'entrevoir le bout du tunnel du Covid. Hein.
Peut-être bientôt la fin du tunnel. C'est un fait, la situation sanitaire, elle s'améliore. Conséquence, dès lundi, dans 21 nouveaux départements, les élèves pourront ne plus porter le masque. Alors le pic de l'épidémie est-il bien derrière nous? On fait le point avec Vincent Burga et Jeanne Cancard.
Dans les rues de la capitale, les Français abordent sereinement l'évolution de la situation épidémique.
A priori, la politique de vaccination a porté ses fruits puisqu'il y a très peu de nouveaux cas. Il y a de moins en moins de gens en cas critique.
On est plutôt rassuré. On a l'impression qu'on va revenir à une vie normale.
On est sur une décroissance sur à peu près tous les signaux. Moi, j'ai l'impression que dans la vie tous les jours, les gens revivent de plus en plus normalement.
Les chiffres de Santé publique France confirment le sentiment des Français. Le nombre de cas journaliers diagnostiqués a été divisé par 6 depuis le 15 août, passant de près de 24 000 nouvelles contaminations à 4 470 hier. Des résultats encourageants, mais il est trop tôt pour entrevoir une fin définitive de l'épidémie, selon le docteur Jérôme Marty.
Il est probable que le temps humide et le froid arrivant, novembre, décembre, on va voir une nouvelle poussée de la circulation virale, mais ça ne devrait pas avoir des conséquences très importantes sur les hôpitaux, puisque, fort heureusement, on a quasi 50 millions de Français de vaccinés, ce qui va considérablement changer les choses.
Les autorités restent donc prudentes. Aucun allègement du pass sanitaire n'est pour l'instant prévu, avant le 15 novembre.
Et puis cette pandémie aura décidément eu des conséquences inattendues, notamment, on va le voir, avec le secteur de l'habillement, Elisa.
Des pointures en rupture de stock ou encore des tailles introuvables, voilà ce à quoi sont confrontés certains clients alors que les usines asiatiques viennent de redémarrer leur production et que les ports chinois et vietnamiens sont engorgés. Eh bien, les retards de livraison, eux, ils s'accumulent et les premiers touchés, ce sont les professionnels de l'habillement. Récit de Jean-Luc Thomas et de Kinson.
Dans ce magasin de vêtements, un client cherche des tenues pour l'hiver. Mission qui se complique pour ces prochains mois. Le gérant du magasin, Emmanuel Lévy, est pénalisé par les retards de livraison. Toute la chaîne du textile est touchée.
Pour une collection qui est basée en hiver, qui démarre à partir de juillet, on commence à recevoir juin, juillet, août. Bah là, ça a été décalé du fait de problèmes, comme on a évoqué, de livraison, de matières premières. Il y a eu beaucoup de retards aussi à un moment sur tout ce qui était par cas. Mais là, le plus problématique reste les chaussures actuellement.
Pour la collection hiver, ce magasin de chaussures a reçu ses commandes avec 15 jours de retard. Les accessoires et les sacs sont toujours en attente. Selon Pierre Izard, le gérant de la boutique, il faudra être patient.
On ne connaît pas vraiment comment ça va se passer. Et effectivement, ce qui devait arriver début février, par exemple, risque d'arriver avec plus de mois ou deux mois de retard.
Se pose alors la question de la production en Asie. Beaucoup de commerçants aimeraient que textiles et chaussures soient à nouveau fabriqués en France ou en Europe.
Et puis un coup d'œil pour terminer dans le rétro avec une voiture française emblématique qui fête son anniversaire.
Oui, joyeux anniversaire à la 4L qui fête ses 60 ans. Le modèle de chez Renault, lancé en 1961, a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Il est cher hein, à de nombreux Français. Et justement, pour les 60 ans de ce modèle iconique, l'atelier Renault des Champs-Élysées de Paris propose une exposition gratuite, rétrospective, inédite des origines de la 4L. À nos jours.
Merci beaucoup Elisa pour ce petit moment nostalgie dans notre matinale week-end. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 8h30. Un coup d'œil sur la météo avec vous Claire Delorme, vous avez de bonnes nouvelles pour nous. Hein.
Exactement, une très belle journée automnale, idéale pour les activités de plein air ou les sorties. Après la dissipation lente mais sûre des brumes et brouillards, on va pouvoir profiter d'un généreux soleil sur l'ensemble des régions, mais à l'exception quand même de la Manche ou encore du Pays de Caux, on pourra avoir quelques petits brouillards récalcitrants. Également des Pyrénées en direction de l'extrême sud-est en passant par la région Rhône-Alpes, à l'exception du Golfe du Lion, basse et moyenne vallée du Rhône. Dernier point, un petit peu d'instabilité en Corse du Sud en fin d'après-midi avec quelques averses. Pour les températures, elles sont tout juste de saison. 19 degrés pour la capitale, 18 degrés à Strasbourg, 17 degrés à Lille, mais tout de même 22 degrés pour la vallée de la Garonne. Et ça va même jusqu'à 23 degrés, là encore, en direction de la Corse, tout comme du côté de Perpignan.
Merci beaucoup Claire, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous fait du bien, cette annonce météo. Tout de suite, ça nous réchauffe. Tout de suite le débat.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
8h07 en direct dans la matinale week-end, CNews Europe 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et notre face-à-face avec ce matin Guillaume Bigot, politologue, et Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Bienvenue. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. On va parler de la commémoration des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Mais d'abord, je vais vous emmener, messieurs, au Havre, c'est là que tout va se passer. Ce matin, 11h30, rendez-vous est pris avec Édouard Philippe qui va annoncer le nom de son nouveau parti politique, un parti qui est censé aider Emmanuel Macron pour élargir la majorité présidentielle en vue de 2022, en vue des législatives, mais un parti dont certains soupçonnent que c'est surtout une écurie pour faire rouler Édouard Philippe. Guillaume Bigot, vous lancez les hostilités. Est-ce que Édouard Philippe joue une sorte de double jeu ?
Ah, je peux peut-être même, on va commencer tout de suite très fort, par un triple jeu. C'est-à-dire que il me semble que le parti créé par Emmanuel Macron était déjà très très proche de LR et du PS, parce que le LR et le PS, étaient sur des positions très proches. Donc on peut considérer que La République En Marche par rapport à LR, c'est un peu Pepsi-Cola et Coca-Cola, si vous me passez l'expression, et que là, on vient d'apparaître peut-être une marque qui s'appelle Virgin Cola. Tout ça, c'est du cola, c'est-à-dire c'est de l'Union européenne, c'est la défense de l'état de droit et c'est la défense des réformes, on va dire, que n'ont peut-être pas mises en œuvre suffisamment au goût de certains Emmanuel Macron. Et donc, il y a l'idée peut-être de faire pièce à la remontée de LR sur des thématiques très proches de La République En Marche. Et peut-être que là, il y aurait un triple jeu, c'est-à-dire, je m'explique, à la fois faire pièce à la montée de LR et à la candidature Bertrand pour Emmanuel Macron, il aurait comme ça son ballon sonde, si je en quelque sorte Édouard Philippe, et puis si ça ne fonctionnait pas, d'aventure si ça ne fonctionnait pas, eh bien Édouard Philippe pourrait jouer sa propre carte en 2027.
Alors votre réponse, Pierre-Henri de Menton, parce qu'un triple jeu, ça va loin quand même.
Dans le triple complot, là, je suis plutôt partisan de la troisième, mais je pense que Édouard Philippe joue son jeu, sa carte personnelle. Il a une posture qui rappelle celle de François Fillon sous son arbre. Vous vous rappelez peut-être en Corse, quand il était Premier ministre, qu'il avait dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». Alors, lui n'est plus en fonction, mais il s'est positionné notamment dans les colonnes de Challenge, une grande interview pour sonner l'alerte, pour expliquer qu'il fallait la retraite à 65, 66, voire 67 ans. Autant dire qu'il n'est pas exactement sur la ligne d'Emmanuel Macron. Il est en train de se positionner et de faire une sorte de saut. On ne parle plus des présidentielles. Là, il joue le jeu, il fait mine de le faire. On parle des législatives qui suivent et surtout de 2027. Donc c'est assez dangereux, on va dire, je trouve, et un peu paradoxal déjà, alors que la campagne n'a pas officiellement commencé pour la présidentielle.
Vous voulez dire que ce n'est pas
le coup d'après ou le coup
d'après. Ce n'est pas le bon moment pour lancer ce parti politique.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de partis dans la majorité, de micro-partis. On ne les compte plus. Il y en a même dont on ne sait pas le nom. Alors il y a Agir, il y a le Modem, il y a LREM. Il y a Territoire et Progrès, donc
ça,
il va y avoir
le
parti. Ce sont des faunés.
Ce sont des faunés. Celui-là, je pense pas que ça soit un fauné. Je pense que c'est un micro-parti et qui est plus vraiment au cœur de LR. Hein, c'est vraiment de l'électorat de droite. Édouard Philippe s'en est jamais caché. Je vous rappelle son premier 20h comme Premier ministre, il a dit « Je suis un homme de droite ». C'est un homme de droite. Avec une tradition rigoriste qui était celle de François Fillon.
Guillaume Bigot, ça permet quand même de rallier une bonne partie de la droite vers Emmanuel Macron, c'est ça l'objectif ?
Bien sûr, ça permet de ratisser large. C'est pour ça qu'un coup n'exclut pas l'autre. Il peut y avoir un coup à jouer tout de suite avant la présidentielle et un coup après la présidentielle, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus dans tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, maintenant, de positionner un parti qui serait un peu le pendant. Si vous voulez, il ferait à Xavier Bertrand ce que Éric Zemmour est en train de faire à Marine Le Pen. Et le tout au service de La République En Marche, c'est-à-dire d'avoir des gens qui seraient vraiment à droite sur cette ligne réformiste, mais qui seraient tout à fait capables de travailler avec Emmanuel Macron, parce qu'il a déjà travaillé avec Emmanuel Macron. Donc ça va vider, en quelque sorte, ça va vider ce qui reste d'électeurs de Xavier Bertrand ou de quelqu'un qui serait désigné par LR. Ça me paraît assez clair.
Pour clore ce sujet sur cette annonce d'un parti politique d'Édouard Philippe au Havre, est-ce que les proches de Macron ont raison de se méfier d'Édouard Philippe ?
Oui, parce que, à mon avis, Édouard Philippe va être le poison d'Emmanuel Macron si Emmanuel Macron est élu, hein, ce qu'on ne sait pas encore. Hein, vous savez que les campagnes réservent des surprises, mais enfin, ça a l'air pour l'instant assez bien parti. Ça va être le poison d'Emmanuel Macron, où Effectivement, il a un rôle, il n'y a pas de majorité absolue, ce qui est probable de LREM, donc il aura un rôle d'appoint.
Où, mais vous y venez, vous aussi.
Voilà, où il a une, il va être de toute façon positionné, on ne sait pas très bien, on le voit bien au perchoir, et là, il va canonner, parce que vous le savez, parce que de par la Constitution, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, donc là, il y aura une bagarre entre Édouard Philippe, peut-être François.
Mais enfin, ça, c'est encore.
Mais le problème,
ouais, dans bien longtemps.
Mais le problème du candidat Macron s'appelle LREM. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui est très fort, qui est en position, en chef de l'État. Mais il a presque pas de troupes, en fait. LREM, c'est une coquille vide. Donc,
la création de ce parti politique d'Édouard Philippe, dont on verra ce qu'il advient dans les semaines et les mois qui viennent. Je voudrais qu'on parle de cet anniversaire très particulier aujourd'hui, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort, le fruit d'un long combat mené, entre autres, par l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Il sera tout à l'heure aux côtés d'Emmanuel Macron pour une cérémonie au Panthéon qu'on suivra, évidemment. Et pour lui, le combat continue. Il s'est longuement confié à Jean-Pierre Elkabbach. Voici un extrait de cet entretien.
Il faut continuer son chemin
jusqu'au
toujours,
bout.
Toujours, toujours.
Vous voulez dire que c'est un combat sans cesse recommencé?
Mais oui, j'évoquais l'abolition universelle qui nous vaut cette commémoration. C'est là où s'inscrit l'avenir pour moi. Le combat contre la peine de mort dans toute l'Europe, il est achevé. J'ai évoqué l'abolition universelle. L'immense majorité des pays, il y a encore des progrès à faire. Il y a d'autres progrès dans le domaine aussi des droits humains.
Et des libertés.
Il y a toujours des progrès à faire et il y aura des conflits. Et ce sera la jeune génération qui les prendra à cœur.
C'est passionnant et c'est à retrouver en intégralité dans votre matinée week-end à 8h40. Robert Badinter, on l'a entendu, qui parle d'un combat sans cesse renouvelé parce que 40 ans après, il faut le dire, ça divise toujours autant les Français. Guillaume Bigot, comment l'expliquer?
D'abord, je pense que l'adhésion plus ou moins importante à l'abolition de la peine de mort est un marqueur, une sorte de météo de l'insécurité et peut-être même de l'ensauvagement du pays. Parce que, évidemment, c'est très difficile de ne pas adhérer à cette vision de la dignité humaine qu'a incarné M. Badinter et qui est celle de Victor Hugo dans Les derniers jours d'un condamné. C'est terrifiant de se dire que l'État peut mettre à mort de manière légale particulièrement un innocent, parce que c'est une peine irrémédiable, comme vous le savez.
Guillaume Bigot, Victor Hugo, la peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie.
Exactement. Donc il y a, mais Victor Hugo, ce n'est pas que de la sensiblerie, si j'ose dire, postmoderne. Il y a un pari. C'est le même pari que, vous savez, ouvrir des écoles, c'est fermer des prisons. C'est qu'en faisant ça, et ce mouvement d'abolition va aboulir à adoucir la société. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. On constate tout de même un non-sauvagement, et on constate aussi d'ailleurs le retour de la guerre. On est très loin de la mondialisation heureuse que nous chantait M. Minc. On voit maintenant des gens qui sont déterminés à abattre notre société, notre idée de la dignité humaine. Ils veulent la détruire.
Est-ce que pour autant...
Alors, c'est complexe. Moi, je pense que sur la question pénale, d'en faire une peine pénale, symboliquement, pourquoi pas, la mettre en œuvre face à des criminels, disons, dans une logique individuelle de peine de mort, non. En revanche... Question, est-ce qu'il ne fallait pas appliquer la peine de mort à Adolf Eichmann? Est-ce qu'il ne fallait pas appliquer la peine de mort à Nuremberg? Est-ce qu'il n'y a pas une fonction symbolique très forte d'un État qui se dit, si on attaque mon mode de vie, alors j'ai aussi le droit de donner la mort?
Alors, Pierre,
les grands pays du monde continuent à donner la mort.
Pierre-Henri de Menton, des grands pays du monde, mais où on voit que ça ne fait pas baisser pour autant la violence ni les crimes, aux États-Unis par exemple.
Comme disait Robert Badinter, en Europe, moi, il me semble que je diverge pas mal.
L'Europe est sortie de l'histoire.
Moi, je pense que l'Europe, c'est fait. Et qu'il y a une évolution sociétale. C'est comme sur d'autres sujets sociétaux, comme par exemple l'avortement, il y a une évolution sur laquelle on ne reviendra pas. Je rappelle par exemple que Marine Le Pen... n'est plus pour la peine de mort. Hein. Elle parle de peine perpétuelle réelle ou véritable. Mais depuis environ 2012, le Rassemblement national, ce n'est plus au programme. Éric Zemmour est philosophiquement pour. On ne sait pas très
bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement?
J'en sais rien. Il faudrait lui demander. Il parle beaucoup en ce moment. Donc, ça serait bien que on le sache. Après, est-ce que c'est un saut civilisationnel, comme ça a été dit hier au Panthéon par Emmanuel Macron et Robert Badinter, hein, qui est presque entré vivant au Panthéon, le pauvre? Moi, je ne suis pas certain. Je pense que c'est une évolution. Et on parlait des États-Unis, puisque vous dites la plupart des grands pays, c'est les États-Unis. Parce qu'effectivement, il y a la peine de mort en Chine ou en Corée du Nord, mais c'est ce qui nous frappe.
Japon aussi.
Ce qui nous frappe, c'est les grandes démocraties. Et aux États-Unis, ça se fait plus doucement, mais il y a un recul de la peine de mort. De plus en plus d'États abandonnent la peine de mort.
Donc moi, c'est le combat sans cesse renouvelé qu'évoque Robert Badinter. C'est
civilisationnel. Je pense que, contrairement à ce qui était dit, je pense qu'il y a un consensus quand même des Français autour de ça. Quand vous regardez les sondages d'opinion, on n'est pas du tout en 80, hein, où il y a un vrai courage politique d'y aller.
Parce que c'était contre la majorité d'opinion publique.
Contre la majorité. Comme Valéry Giscard d'Estaing avait eu le courage d'y aller sur l'avortement. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait de retour en arrière possible. Donc voilà. Et est-ce que c'est un événement de célébrer cela? C'est à la fois bien, puisqu'effectivement Robert Badinter est un personnage très emblématique, mais c'est une forme de politisation qu'on voit assez vite poindre, effectivement, en disant il y a un cercle de la raison, etc., et quelques extrémistes qui continuent à prôner la peine de mort. Voilà, je ne suis pas sûr que ça soit très très sain de indéfiniment célébrer ce genre d'événement.
Même si, Guillaume Bigot, pour conclure, on voit quand même que c'est reste un sujet.
Bah, écoutez, l'État a le pouvoir de tuer. C'est ce qui définit même l'État. C'est le monopole de la violence légale légitime. Et donc, quand François Hollande avoue qu'il a fait exécuter les auteurs du Bataclan, il a donné la peine de mort. Donc, il y a quelque chose d'absolument tartuffe là-dedans.
C'était dans un contexte totalement différent. Après, le verdict d'un tribunal.
En tout cas, il a signé un papier pour dire qu'un tel a à être mis à mort.
Merci, Guillaume Bigot et Pierre-Henri de Menton d'être venus débattre sur notre antenne aujourd'hui. À suivre, la santé, c'est important avec le docteur Brigitte Millot. On va parler du placebo. Il paraît que c'est très bon pour nous.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
On parle de votre santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte.
Bonjour Isabelle.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'effet placebo et aussi à l'effet nocebo qu'on connaît moins, mais ça existe. Quand on parle placebo, on pense à psy, mytho, pipo. Vous nous dites, c'est vrai, vous nous dites pas du tout.
Mais en fait, il faut différencier l'effet placebo et le placebo. L'effet placebo, ça marche, c'est efficace, etc. Le placebo, en revanche, si c'est un médicament, c'est de la poudre de perlimpinpin, mais ça peut être plusieurs placebos. Par exemple, vous avez un enfant qui tombe, qui crie, qui se fait mal, qui pleure. Vous lui faites quoi? Un bisou magique,
dessus,
voilà.
Et
ça disparaît tout de suite. Voilà, ça, c'est l'effet placebo. Vous vous réveillez, vous avez mal à la tête, vous avez la nuque raide, vous dites, mon Dieu, ça y est, j'ai une méningite, c'est terrible et tout. Vous filez en urgence chez le médecin. Le médecin, il vous explique que pas du tout, tout va bien, c'est une petite contracture et tout. Vous ressortez, plus aucun symptôme.
Donc, c'est psychologique.
Tout est psychologique. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous dites, je vais prendre un somnifère. Le somnifère, ça met à peu près 20 minutes à agir minimum. En 5 minutes, vous dormez. Moi, je crois que même en regardant la boîte, je dors.
C'est vrai.
Donc voilà, c'est l'effet placebo. Donc quand on dit que c'est psychologique, en fait, tout passe par le cerveau, c'est vrai. Mais il faut comprendre quand même que notre cerveau, c'est un véritable labo. C'est une industrie pharma à lui tout seul. Il est capable de fabriquer des antalgiques, de la morphine, des antibiotiques. Donc en fait, si vous voulez, l'effet, il est peut-être... Enfin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Mais en fait, l'effet, il est bien réel puisque vous fabriquez les médicaments qui vont vous apaiser.
Vous avez l'idée d'être notre propre pharmacie.
Oui, mais de toute façon, nous sommes notre meilleur médecin. Hein. Notre immunité, etc. C'est vrai que c'est mieux. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à le dénigrer, cet effet placebo, alors qu'il est très important.
Tous égaux devant ce placebo?
Non, on n'est pas tous égaux. Mais je voudrais revenir sur l'efficacité du placebo. On a fait des études avec des médicaments. C'est 30% d'efficacité, un placebo, quand même. Hein. Donc, vous voyez ce que le cerveau peut faire, quand même, la puissance de notre cerveau. On n'est pas tous égaux dans le placebo. Il y a des gens placebo sensibles, d'autres non. Et puis, il y a plein de choses qui entrent en jeu dans le placebo. Un médicament, plus il est cher, plus il est efficace, plus il aura un effet placebo. Un médicament, plus ça fait mal en piqûre, c'est toujours beaucoup plus efficace qu'en comprimé, parce que ça fait mal, parce que c'est cher, parce que c'est remboursé. Quand c'est pas remboursé, on se dit que c'est pas efficace. Vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça.
Et effectivement, c'est très psychologique, ce que vous nous dites. Ça marche pas quand même, c'est important de le préciser, peut-être pour toutes les maladies.
Non, bien sûr. Si vous avez 40 de fièvre avec une septicémie, on va pas vous donner. Ça marchera mieux sur des migraines, sur des dépressions, sur des maladies un petit peu plus psychologiques, on va dire.
On a évoqué l'effet nocebo, on n'en parle jamais, c'est le contraire de placebo.
Oui, alors placebo, ça veut dire je plairai, nocebo, je nuirai. Et l'effet nocebo, il existe réellement. Hein. Vous allez chez le médecin, il a une blouse blanche, il y en a encore qui portent la blouse blanche. Il vous prend la tension, elle monte. Parce que vous êtes stressé, parce que ça va pas. C'est l'effet nocebo. Il y a tout un tas d'effets nocebo. Vous prenez une boîte de médicaments, vous lisez la notice, vous faites les effets secondaires qui sont marqués sur la notice.
Ou alors sur Internet, c'est encore pire que tout.
Voilà, si vous êtes hypochondriaque, ouais. Surtout n'allez pas sur Internet. Si les étudiants en médecine, quand ils étudient une maladie, ils ont tous les symptômes de la maladie. Les médias sont aussi nocebo inducteurs. Hein.
Mais non, enfin, nous, on sera voilà. Placebo avec vous. Voilà. Merci beaucoup, docteur Brigitte Millot, pour cette chronique santé. Merci.
La matinale week-end, CNews Europe 1. Isabelle Moreau.
8h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end CNews Europe 1. L'actualité avec vous, Elisa Lukaski.
15 mois après avoir quitté Matignon, Édouard Philippe lance aujourd'hui son parti politique au Havre. Objectif pour l'ancien Premier ministre, élargir vers la droite le socle des soutiens à Emmanuel Macron. Il dévoilera le nom de ce parti et son logo à 11h30. Éric Zemmour, lui, continue son tour de France. L'écrivain qui assure la promotion de son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, est arrivé en Corse. Il sera à Ajaccio ce samedi. Hier, pour la première étape à Sartène, il a été pris à partie par un indépendantiste. Éric Zemmour, qui n'est toujours pas officiellement candidat, mais qui a eu hier des mots très durs envers Emmanuel Macron. Le président de la République, qui était justement hier du côté de Montpellier pour le sommet Afrique-France, il s'est exprimé sur l'importance de la démocratie à 6 mois d'élection présidentielle. Pour lui, c'est une situation qui n'est pas acquise et qu'il faut sans cesse entretenir.
La démocratie, c'est un combat. Je pense que ce qu'on est tous en train de faire, d'abord, notre projet, il est sans cesse inachevé et il est fragile. Et je pense que ce qu'on redécouvre, c'est que la démocratie, y compris en France, y compris dans le pays des Lumières, le pays de la Révolution, c'est fragile. Quand on pense qu'on peut expliquer que ce qu'on avait bâti comme des universaux et des valeurs universelles, les droits de l'homme, la dignité, l'égalité femmes-hommes, on peut se mettre à la relativiser, y compris chez nous dans le débat français, on voit que la démocratie redevient un combat.
Merci beaucoup pour ce point sur l'actualité, Elisa Lukaski. Rarement le passé aura été aussi tendance, aussi moderne. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour Isabelle.
Journaliste européen, Mathieu, on est bien obligé de constater que le vintage envahit nos vies sur un air de « c'était mieux avant ».
C'est-à-dire que nous sommes submergés d'informations sur le net, de tentations d'achat en tout genre. Et puis, il y a une grande tendance qui arrive vraiment cette fin 2021. C'est, après 2 ans de pandémie, l'improbable retour de valeurs du passé. Alors, vous savez, il y a eu le tonitruant comeback de la Stan Smith, hein, il y a quelques années. Le retour des disques en vinyle. Et maintenant, ça touche même la voiture. Incroyable, Renault annonce fièrement le retour de la 4L. Et de la R5, c'est quand même des choses totalement improbables.
60 ans pour la 4L aujourd'hui.
Qui fête son anniversaire. Et il y a une frénésie d'un seul coup qui contamine les futurs acheteurs. Parce que ce sont des souvenirs en pagaille, des films, des publicités. Et puis une odeur de pépito sur la banquette arrière.
Mais c'est juste un phénomène isolé ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond?
Non, c'est vraiment la tendance des nouvelles années 20. Figurez-vous que depuis 2 semaines, nous avons une exposition Goldorak. Vous savez, Goldorak Go, à la Maison de la Culture du Japon. Une chose totalement impensable il y a encore quelques années. Mais la politique s'y met aussi. Ça, c'est quand même une chose incroyable. Éric Zemmour, depuis 10 jours, martèle qu'il est nostalgique du RPR des années 80. C'est quelque chose qui ne fait pas de manière innocente. Alors, il y a un seul domaine qui échappait un petit peu au phénomène, ce qui était normal, c'était l'alimentaire, parce qu'on ne peut pas conserver des denrées alimentaires. Et pourtant, depuis la fin de l'été, on nous parle du retour du flan, qui nous fait un grand souvenir de cantine, et même, alors là, la chose la plus improbable, du retour de la mode des blettes, la chose que le légume qu'on ne nous proposait même pas.
Le légume oublié par excellence.
Mais oublié, même à la cantine, on ne nous le proposait même pas.
Pourquoi ce retour improbable, Mathieu?
Parce que Isabelle, nous vivons des temps angoissants et incertains dans un monde totalement fracturé. Les gens ont besoin de liens, de se rappeler ce qu'ils aimaient ensemble, les films qu'ils voyaient ensemble, les véhicules qu'ils consommaient ensemble. Bref, on a envie de vivre des émotions communes. Il y a eu une enquête du New Scientist en 2013 qui avait croisé des données sociétales et économiques et qui concluait qu'on pouvait estimer que le monde avait été le plus heureux en 1978. Donc, finalement, mettre un petit peu de touche de passé en 2021, ça nous ferait du bien à tous, sans doute parce que l'avenir n'est plus ce qu'il était.
Retour vers le futur. Merci beaucoup Mathieu et merci de citer Paul Valéry quand même à l'occasion avec l'avenir qui n'est plus ce qu'il était. C'est toujours bon à méditer. Dans...
Avec François Valéry, hein,
rien à voir, effectivement. Merci Mathieu Alterman, on vous retrouve demain évidemment dans la matinale Week-end CNews Europe 1. Dans quelques instants, juste après votre météo, vous retrouvez Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, Robert Badinter. Il commémore aujourd'hui avec Emmanuel Macron les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. C'est le combat de toute sa vie et il veut continuer à faire passer son message auprès des jeunes générations.
La matinale week-end, CNews Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour Robert Badinter et merci de cette rencontre qui a lieu en plus chez vous. Merci de nous accueillir. À travers le président de la République, la France rend hommage en ce moment à la décision de François Mitterrand d'abolir la peine de mort et à vous-même qu'il avait appliqué et imposé. Et pour plus de solennité, c'est le Panthéon qui est choisi. Comment vous ressentez aujourd'hui ce moment dans l'histoire de la République et même du pays, de la France ?
Écoutez, avec plaisir, au Panthéon, il y a enterré de grandes figures républicaines qui ont marqué l'abolition. Les grandes voix de l'abolition, c'est d'abord Jaurès et Victor Hugo qui sont là au Panthéon. Et puis Condorcet aussi, symboliquement. Donc c'est bien. Et il est bien de marquer que 40 ans se sont écoulés pendant lesquels l'abolition n'a cessé de progresser dans le monde.
En France, et vous le dites souvent, la peine de mort c'est fini. Oui. Est-ce que vous en êtes sûr ?
Absolument. Sauf un cas. La peine de mort a toujours été l'apanage ou l'expression des dictatures. Il est évident, ce serait certain.
Mais
je dirais, une constante de l'histoire de la peine de mort que d'être inhérente, structurellement liée au régime totalitaire.
Mais est-ce qu'il y a ce risque-là en Europe et en France aujourd'hui ?
Écoutez, je me refuse même à l'idée de penser que la France puisse devenir, au sein de l'Union européenne, une dictature totalitaire.
Mais...
Et même dans ce cas-là, je rappelle que la France est liée par des accords internationaux.
Que l'on peut rompre.
Pas seulement, aux Nations Unies aussi. Alors vous imaginez un instant la présidente ou le président de la République française allant déchirer la Convention européenne des droits de l'homme, le pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies, les annexes. Enfin voyons, pour la France qui se veut tellement, et dans la bouche de tous ses présidents successifs, la patrie des droits de l'homme, ça serait une aberration.
Mais vous savez que peut-être en période...
Mais je n'y crois pas du tout, hein, je le dis clairement. C'est la seule hypothèse et je la refuse.
Ouais. Mais en période de campagne électorale ou de pré-campagne, vous voyez monter l'envie d'un retour de la peine capitale contre les trafiquants, contre les grands récidivistes, contre les terroristes. Il y a des terroristes qui sont en ce moment jugés après leur tuerie de masse du Bataclan. Et on entend une nouvelle fois des voix qui s'élèvent pour rétablir la guillotine.
Mais chacun est libre de ses convictions en France. Précisément parce que nous sommes une démocratie. Si nous étions dans un régime totalitaire, les voix minoritaires d'opposition seraient. Évidemment, ça se tairait.
Oui.
Mais je ne veux pas discuter de ça. Je dis, rappelez-vous une chose. Après l'abolition voulue et votée par le Parlement à l'initiative de François Mitterrand, vous avez eu la constitutionnalisation de l'abolition par Jacques Chirac.
En 2007.
Et je tiens toujours à le rappeler. Par conséquent, c'est un principe constitutionnel. Je ne cesse de répéter. Le seul objectif, c'est l'abolition universelle. Les progrès dans ce sens sont immenses depuis. Alors, au lieu de me dire « Ah, mais il y a des démagogues qui... » Je préférerais vous entendre me dire quels sont aujourd'hui les progrès effectifs depuis 40 ans de l'abolition. Ça, ce sont des
faits. Il y a des progrès partout. Alors là,
mais partout,
sauf dans les pays qui sont encore des dictatures, la Chine, l'Arabie saoudite, l'Iran, etc.
Je vais vous donner des précisions. Quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, nous étions le 35e État dans le monde.
Et aujourd'hui,
il y a 120 États sur 180 abolitionnistes en droit dans leur loi.
C'est formidable, mais le chemin est encore long.
S'y ajoutent aussi tous ceux qui ne pratiquent pas la peine de mort, même s'ils n'osent pas, pour des raisons politiques intérieures, abolir.
Le 16 mars 81, lors d'un quart sur table qui est désormais historique, François Mitterrand annonçait que s'il était élu, la peine de mort disparaîtrait en France, malgré l'avis contradictoire ou contraire d'une partie de l'opinion, une grande partie. Mais pourquoi il l'a dit, lui, François Mitterrand, à ce moment-là? D'où ça venait?
Mais écoutez, c'est vous, ou plutôt c'est vous deux, Alain Duhamel et vous, qui avez posé la question. Et le matin même, dans mon souvenir, 40 ans de cela, au téléphone, j'avais été prévenu que vous poseriez la question, Duhamel ou vous. Puisque j'ai téléphoné sur le champ à Mitterrand, j'ai dit ce soir...
Mais pourquoi Mitterrand le dit? Si la question n'avait pas été posée, il n'y aurait pas eu l'abolition? Ou il le portait en lui?
Ah non, l'abolition a été, je le rappelle, inscrite au programme des partis de gauche depuis fort longtemps. À cet instant-là, et candidat, il fallait du courage. Il fallait du courage moral pour pouvoir se prononcer ouvertement.
Aujourd'hui, vous regardez la France et les Français, vous les regardez vivre. Dans quoi il faut avoir du courage? Sur quoi il faut du courage? Quand vous entendez que la France décline, etc., etc., et qu'il y a deux Frances, vous, Robert Badinter, qu'est-ce que vous dites? Une France qui est, ou deux Français côte à côte qui peuvent se taper sur la figure, et un jour qui peuvent être, elles sont côte à côte, elles peuvent être face à face.
Alors, disons-le, regardons là aussi le mouvement de l'histoire. Quand est-ce que la France est grande? Au moment de ses victoires, je le veux bien. Mais le vrai rayonnement de la France, aujourd'hui, comme il était au temps où mon père est venu ici, c'est quoi? C'est l'indéfectible alliance entre la France et les libertés. La France est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme et qu'elle a été la première à formuler ses principes comme étant le fondement d'une société. Et ce texte-là et ces principes-là, ce sont eux qui rayonnent encore dans le monde. Et la France, elle est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, elle doit toujours s'en souvenir, toujours les respecter, parce que sinon, elle n'est plus qu'une puissance qui est importante, et qui n'est plus dominante.
Donc il faut dire aux Français ce que vous dites, et en même temps, peut-être qu'ils ont besoin qu'on leur parle de leur avenir, de la place de la France et de son rang dans le monde aujourd'hui.
La France, elle est d'abord une grande puissance européenne. Et l'Union européenne et l'Europe comme puissance, je le rappelle, c'est la première puissance économique du monde. La France doit être moteur de l'Europe, toujours et constamment.
Exemplaire.
Et à travers là, elle retrouve un grand rôle historique.
Jean-Marie Le Pen est loin. Marine Le Pen voit son électorat s'effriter. On ne peut plus dénoncer en France, comme vous l'aviez fait, la lepenisation des débats et des esprits. Vous êtes d'accord?
Vous évoquez là des hommes politiques passés. Ce n'est pas la question. La question pour moi, qui n'appartient plus à la scène politique.
Mais la France vit peut-être un moment clé de son histoire. Un moment de plus clé de son histoire.
Ce que nous avons aujourd'hui, par rapport à d'autres crises internationales, face à des régimes dictatoriaux qui voulaient notre perte. Pardonnez-moi, c'est dérisoire. Rappelez-vous seulement parce que ça concerne votre génération, que en 1983, 2 ans après l'abolition, il y avait encore des fusées atomiques SS-20 pointées sur Paris par l'Union soviétique.
On n'en est plus là. Mais vous parlez du passé, de la.
Là, c'était la menace de destruction totale.
Mais la guerre atomique,
c'est quand même ça que j'ai connu table du Conseil des ministres.
Et il y a la guerre.
Alors, les polémiques actuelles, je les regarde, les polémistes, je les écoute avec un certain sourire de scepticisme.
Oui, mais c'est vous, vous êtes un des rares à sourire.
Et parfois de mépris.
Un des rares à sourire. Mais quand, par exemple, vous racontez le passé douloureux que vous avez vécu, est-ce que on peut réconcilier Pétain et De Gaulle? Est-ce qu'on peut...
À titre posthume, je pense.
Deux esprits, comme on l'a dit, de France.
Oui, enfin, je rappelle que l'un a fait condamner à mort l'autre par défaut, et que l'autre a été condamné à mort et gracié par le général De Gaulle. C'est de l'histoire, ça. Ce n'est pas une inspiration pour l'actualité.
La majeure partie de votre vie, Robert Badinter, vous l'avez consacrée au droit.
Oui.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il est respecté aujourd'hui?
Écoutez, je considère qu'il a fait des progrès considérables par rapport à ce qu'il était en 1945, quand j'ai commencé mes études, et en 1950-49, quand je suis devenu avocat. Les progrès sont considérables, et j'ajoute qu'ils s'inscrivent dans l'ordre international, qu'aux garanties du droit français fondamental, première, s'ajoutent maintenant les garanties du droit international et notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. L'Europe, vous comprenez? Comme disait le grand homme.
Oui, oui, mais il faut que la France, comme vous le dites, soit exemplaire à travers l'abolition, quelquefois vous dites irréversible, de la peine de mort. Une question. Là, l'Église, elle a été marquée, elle est traumatisée par ce qu'elle vient de vivre, ce qu'elle a fait découvrir, de la pédophilie, etc. Est-ce que pour vous, le secret de la confession est plus important que les lois de la République? Comment on l'entend?
Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi, juif, de dire à l'Église, voilà ce qu'elle doit faire. Je regarde, je constate, je vois cette volonté de transparence, cette volonté.
Mais est-ce que la loi religieuse peut être au-dessus de la loi de la République? Est-ce que la loi religieuse peut être au-dessus de la loi de la République?
Mais non, mais l'Église ne dit pas cela. L'Église n'a jamais dit ça.
Le président de la conférence épiscopale l'a dit.
Et d'ailleurs, sans me faire, ce qui serait paradoxal, sans me faire à cet égard l'interprète de la pensée ecclésiastique, ce n'est pas ce que j'ai lu ni entendu. Que l'Église ait une volonté de transparence, c'est bien. Qu'elle ait un devoir de réparation, c'est très bien aussi.
Mais chacun à sa place, comme disait votre Victor Hugo.
Il ne disait pas que cela.
Évidemment. Et qu'on ne parle pas en France comme les talibans.
Et il disait essentiellement, et ça résume très bien, toute la doctrine de séparation de l'Église et de l'État, toute la laïcité qui pour moi est clé de voûte de la République, Hugo disait très bien, l'Église chez elle, l'État chez lui.
Vous avez incarné le droit, vous avez dénoncé la peine de mort, et vous l'avez fait avec François Mitterrand et Jacques Chirac, sortir de la France. Vous avez dénoncé l'antisémitisme, les racismes, la misogynie, la xénophobie. Vous avez servi la République au plus haut niveau et la justice. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes considéré, et vous le resterez tout le temps, comme un symbole, parfois critiqué, et surtout reconnu et admiré pour beaucoup? Je suis trop flatteur.
Non, c'est pas ça. L'idée que je prendrais la pause et que je me regarderais dans la glace en me couronnant de laurier, ce qui serait utile pour ma calvitie. Mais
vous laissez les autres le dire.
Non, je veux dire, il faut continuer son chemin.
Jusqu'au bout. Vous voulez dire que c'est un combat sans cesse recommencé?
Mais oui, j'évoquais l'abolition universelle. nous vaut cette commémoration. C'est là où s'inscrit l'avenir pour moi. Le combat contre la peine de mort dans toute l'Europe, il est achevé. J'ai évoqué l'abolition universelle. L'immense majorité des pays, il y a encore des progrès à faire. Il y a d'autres progrès dans le domaine aussi des droits humains.
Et des libertés.
Il y a toujours des progrès à faire et il y aura des conflits. Et ce sera la jeune génération de les prendre à cœur.
Mais
je regarde l'histoire, m'intéresse passionnément à elle, et je regarde aussi l'actualité.
C'est l'histoire, vous y avez votre place, c'est le Panthéon, et c'est d'une certaine façon la postérité pour Robert Ballinter, à travers... mais ce n'est pas à vous de le dire.
Non, mais non seulement ce n'est pas à moi de le dire, mais je dois quand même rappeler que ce qu'on semble perdre de vue, c'est que le Panthéon est un cimetière.
Non, on n'est pas pressé d'y aller, même si c'est le Panthéon. En tout cas, merci Robert Ballinter, cher Robert Ballinter, de nous avoir accordé cet entretien chez vous, dans l'immeuble où a vécu aussi Léon Blum.
Oui.
Tout près du Sénat, vous avez été sénateur, et tout près du Panthéon, vous serez cet après-midi avec le président de la République. Je vous remercie.
Merci à vous.
Vous venez donc d'entendre Jean-Pierre Elkabbach et Robert Badinter à quelques heures de cette cérémonie au Panthéon. Demain, Jean-Pierre Elkabbach recevra Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Excellent samedi à tous. On se retrouve sans faute demain, 7h30, pour une nouvelle matinale week-end sur CNews et Europe 1.
La matinale week-end, CNews Europe 1.